Voilà, nous avons commencé dimanche dernier une série d'études sur l'église d'Éphèse. Et dimanche dernier, c'était l'église d'Éphèse, ses débuts. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème de l'église d'Éphèse, ses luttes. Dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Vous savez que l'implantation de l'église d'Éphèse s'est faite dans la douleur. Comme la plupart des implantations d'église. Vous savez, le semeur, quand il est dans son champ en train de semer, vous savez, à l'ancienne, là, où il prend le grain et puis il le jette. En général, si vous voyez une photo d'un semeur, eh bien, c'est l'automne, on voit le froid, on voit le ciel un peu gris, et il est tout seul dans le champ. Il n'y a personne avec lui, il n'y a que lui. Au moment de la moisson, ah, alors là, c'est la fête et tout le monde est là. Mais quand on sème, souvent on est seul. Mais au moment de la réjouissance, alors tout le monde se joint. Même ceux qui étaient au lit pendant qu'ils semaient. Et l'apôtre Paul, un peu aussi, quand il regarde en arrière, et il voit, et il sait que l'implantation de cette église d'Éphèse était dans la douleur. Regardez les passages avec moi comme 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1, où il fait référence à cette époque, et au chapitre 1, et je lis les versets 8 et 9. Donc 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9, il dit « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Il dit, on se souvient de cette époque. Il y avait des moments même où on se demandait si on allait vivre, tellement c'était dur. Et l'opposition est venue de plusieurs directions pour empêcher cette implantation d'une église dans cette province d'Asie. Actes chapitre 20, verset 19, l'apôtre Paul, c'est juste peu de temps après, il était parti et il revient, il est de passage à Éphèse, il voit les anciens d'Éphèse, et Actes chapitre 20, verset 19, il dit, je commence au début de la phrase, là, donc verset 18, il dit « Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, donc les anciens de l'église d'Éphèse, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je me suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Il dit, je me souviens, il dit, je suis pas prêt d'oublier que lorsque l'on a commencé l'œuvre à Éphèse, eh bien, c'était dans la douleur. Il y avait l'opposition, il y avait les embûches des Juifs. Dans sa première lettre aux Corinthiens et au chapitre 16, il fait référence aussi. 1 Corinthiens chapitre 16 et au verset 9, je vous lis cela. Il dit « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Oui, nous voyons le produit, nous lisons l'épître aux Éphésiens, et puis on dit « c'est une église pas mal ». Mais Paul se souvient des douleurs de l'enfantement. Et dans ces Actes chapitre 19, en lisant ce passage, eh bien, nous serions tentés de souligner ce qu'on a vu dimanche dernier. C'est lorsque ces 12 disciples de Jean ont prié et ont été baptisés du baptême de Christ. L'apôtre Paul a imposé les mains sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit qu'ils ne connaissaient pas avant, ils ne savaient même pas qu'il existait. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont eu le signe qui a indiqué, il leur a indiqué et a indiqué aux autres qu'ils avaient réellement reçu l'Esprit. Et ils ont pu parler en langue et ils ont surtout glorifié Dieu. Et lorsque, retournez avec moi dans Actes chapitre 19, et lorsque nous continuons à lire, eh bien, nous lisons des versets tels que le verset 11 qui nous dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Vous dites, ah, ça me rappelle Pentecôte, ça me rappelle les débuts, ce qui était arrivé après que le Saint-Esprit soit descendu sur Pierre et les autres apôtres, et puis on dit ici, ah, ben, c'est une répétition de Pentecôte, et si c'est arrivé deux fois, ça peut arriver trois fois, et on serait tenté d'en faire un modèle et dire, mais voilà comment ça doit se passer chaque fois. Et on pourrait tenter de le faire, et certains le font. Mais avant d'aller trop vite dans nos conclusions, parce que ça c'est juste un verset, deux versets dans le passage, voyons un peu ce que l'Esprit de Dieu tente de nous dire avec le reste du passage. On n'a pas le droit de prélever des versets au milieu d'un contexte, mais plutôt de comprendre tout le passage et de conserver le verset dans son contexte. On dit aux jeunes étudiants d'homilétique à l'Institut biblique, on leur dit « un verset hors contexte n'est qu'un prétexte ». On s'en sert pour dire ce qu'on veut dire. Mais il faut conserver ses pensées dans le contexte. Alors aujourd'hui, nous voulons un peu voir le reste de ce chapitre 19 et voir finalement l'opposition. Hein, c'est l'opposition qui a été rencontrée, les luttes de cette implantation d'Église. Alors, je voudrais souligner trois points. D'abord, la nature de l'opposition. Essayer de voir la nature de l'opposition. Ensuite, voir l'orientation de l'effort. Et troisièmement, le secret de son succès. Pour vous dire la vérité, je le sais déjà maintenant, c'est qu'on n'ira pas beaucoup plus loin que le premier point. Je vais mentionner le deuxième et le troisième, on reviendra dessus plus tard. Mais d'abord, la nature de l'opposition. D'où venait l'opposition? L'apôtre Paul a un souvenir vif de ce qui s'est passé et ce qu'ils ont subi et ce qu'ils ont rencontré et les obstacles et les luttes. Et puis l'Esprit de Dieu a jugé important pour nous de voir. Et nous, finalement, il y a presque un chapitre entier qui nous parle des difficultés qu'ils ont rencontrées. Certainement pour nous rassurer, certainement pour que nous ne soyons pas étonnés, et aussi, comme il a été souligné tout à l'heure, de nous montrer la fidélité de Dieu. C'est dans l'épreuve et la difficulté qu'on goûte à la fidélité de Dieu. Quand tout va bien, on le voit pas. C'est quand c'est dur, quand ça va plus, c'est là où la fidélité de Dieu prend un sens. Alors, lorsque nous regardons dans ce passage, il y a une chose qui est indiscutable, c'est le succès de l'implantation. Il nous dit au verset 10, il nous dit « Tous, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur ». Ben, ça, c'est extraordinaire. Il nous dit au verset 17, il dit « La crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié ». Il dit, mais ça c'est un signe de succès. Et il nous dit même au verset 26, Il nous dit au sujet des orfèvres d'Éphèse, eh bien, même ceux qui étaient contre l'œuvre, eh bien, ils ont rendu ce témoignage en disant, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une assez grande foule en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Ah, voilà le témoignage de l'opposition. Il dit, mais cet homme-là, il a influencé partout. Pas seulement à Éphèse, mais toute la région. Et nous allons revenir sur cet événement. La première opposition était interne. La première qui a été ressentie venait de l'intérieur. Nous avons dit la semaine dernière, et c'est dans le chapitre 18, Paul était venu à Éphèse, il a été dans la synagogue, et il a parlé un petit peu, très vite, ils lui ont dit, écoute, reste avec nous, tu peux nous enseigner. Paul a dit, non, non, je dois partir à Jérusalem, mais je vais revenir, et je reviendrai. Et dans le, justement, dans ce chapitre 19, verset 8, il nous dit, ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois et discourait dans de ces choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc, il a gardé sa promesse, il est revenu et il a enseigné pendant 3 mois dans cette synagogue. Mais c'est au sein de cette synagogue des juifs, lui juif, lui un érudit de la loi judaïque et qui pouvait apporter des explications à tous ceux qu'il pouvait se poser comme question. Mais au bout de 3 mois, les choses se gâtent dans cette synagogue et il nous dit que au verset 9, donc du chapitre 19, il dit « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. » Donc l'opposition vient du sein de la synagogue, la première opposition. Elle vient de la part de quelques-uns qui étaient résistants. Il nous dit qu'ils s'étaient endurcis. C'est-à-dire, ils étaient peut-être ouverts au début des 3 mois, mais à force d'entendre et d'écouter Paul, ils ont commencé à développer de la résistance. Et cette résistance est développée au point que maintenant, ils étaient prêts à haute voix de dénoncer, de les critiquer, et de critiquer ce qu'on appelait à l'époque, on n'appelait pas ça le christianisme, on appelait la voix du Seigneur. Ce serait pas mal qu'on revienne à ça. Hein. C'est plus parlant hein, que dire christianisme, protestant, la voix du Seigneur, le chemin du Seigneur. Qu'est-ce qui a fait réagir ces Juifs? Eh bien, lorsque je lis l'épître de Paul aux Éphésiens, et je vois les thèmes qu'il reprend un peu pour les rappeler de ce qu'il leur avait enseigné précédemment, il y a un thème qui revient et que l'apôtre Paul souligne justement dans l'épître aux Éphésiens, c'est ce thème du fait que tous, juifs et païens, nous sommes unis en Christ pour faire un même peuple. Et vous comprenez, la plupart d'entre vous avez une bonne idée du contexte de l'époque. Les Juifs avaient du mal à intégrer les païens. Quelque part, ils étaient le peuple de Dieu, et parce qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu, ils étaient meilleurs que les autres. Et ils étaient assez convaincus de cela, et ils pensaient que même l'Ancien Testament soutenait cette théorie. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Christ est venu pour faire de tous un même peuple. Et certainement Paul en train d'insister sur le fait, en train de dire, oui, nous les Juifs, mais aussi les païens, Christ est mort pour eux. Et à force d'insister sur cela, eh ben certains, ils ont créé de la résistance. Paul lui-même, étant juif, étant érudit, certainement qu'il aurait pu, bon, il comprend les Juifs, il aurait pu vivre avec eux, il aurait pu certainement les accommoder un petit peu. Mais Paul, voyant cette résistance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ceux qui ont cru, ceux qui sont disciples, et ils vont traverser la rue et s'installer dans l'école d'un certain Tyrannus. Parce que Paul, il dit, moi, oui, vous m'acceptez, je suis juif, je peux être là. Mais si vous n'acceptez pas les païens, qui sont mes frères aussi, alors vous me rejetez aussi, je sors. C'était la position qu'a pris l'apôtre Paul. Il dit, vous ne voulez, mais vous ne voulez pas mes frères, eh bien vous ne me voulez pas, je sors. Vous dites, mais c'est une division, l'apôtre Paul provoque une division. L'apôtre Paul ne provoque pas une division. Il a dit, il y a des choses qui ne se négocient pas. Et je vais vous parler franchement. Je vous dis souvent que c'est une certaine sœur, Madame de Persin, qui a prié pour que cette église vienne en existence. Au moment où elle en priait, elle m'en parlait, je n'étais pas intéressé. Je travaillais strictement avec les arabophones. Et j'ai dit, moi j'ai une autre mission, c'est pas pour moi, quelqu'un d'autre peut démarrer ça. Elle a dit, je continue à prier. Heureusement qu'il y a des gens têtus hein, dans l'église, dans le bon sens. Elle a continué à prier. Ce que je faisais, c'est que le dimanche, quand je voulais, pour ma famille, pour des personnes francophones que je rencontrais, je les emmenais à Paris, dans une église, une certaine église. Les contacts, il y avait des frères arabophones aussi qui disaient, ben nous on veut aller dans une église française aussi. Alors je les emmenais avec moi, on allait dans une certaine église à Paris. Mais un jour, après le culte, le pasteur est venu vers moi, il a dit, écoute, toi, pas de problème, tu peux rester, mais tes amis, on n'en veut pas. Ben, c'était la dernière fois que j'ai mis les pieds dans cette église. Je suis monté à Saint-Denis, j'ai dit, Seigneur, on va démarrer quelque chose et on va faire une église où tout le monde est bienvenu. Ça, c'est l'histoire, je vous dis, c'est l'histoire de cette église. Et j'espère qu'on va le maintenir. J'ai dit, je veux que n'importe qui rentre par la porte, il se trouve chez lui. C'est le choix qu'a fait l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a dit, oui, les Juifs, et vous savez, vous avez lu combien de fois il dit, mon peuple, je les aime, je suis prêt à mourir pour eux, je suis prêt à qu'ils soient sauvés, moi je sois perdu. Il les aimait. Mais il a dit, je ne permettrai pas qu'on enseigne notre évangile que celui qui inclut, englobe tout le monde. Et dis-moi, je pars. Si on ne peut pas recevoir mes frères d'une certaine catégorie, eh bien, je ne suis pas bienvenu. Bon, pour terminer l'histoire de ce que je vous ai dit, l'église dont je vous parle, aujourd'hui, elle reçoit tout le monde. Donc, voilà, n'allez pas chercher. Les choses ont changé. Mais vous savez, dans une église, on peut être tenté pour notre confort. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir des gens avec qui on est à l'aise, des gens qu'on comprend bien, des gens qui sont un peu comme nous. C'est un certain confort. Mais l'église n'existe pas pour le confort. L'église existe pour rendre témoignage à Jésus-Christ devant ce monde. Et nous devons faire très attention que surtout avec l'Église qui prend de l'âge, la maturité maintenant, l'année prochaine c'est 20 ans hein, de notre Église. 93, en février 93, ça fera 20 ans que l'Église existe. Nous prenons de l'âge, eh bien j'espère que se développera jamais un esprit où il y a certaines personnes qui ne seraient pas bienvenues. Et c'est pas toujours pour des raisons nationales ou c'est pas pour des raisons culturelles. Parfois, ça peut être parce que des gens ont un certain arrière-plan. Hein, vous savez, dans notre monde, on pourrait avoir des gens qui ont eu un autre mode de vie dans le passé. Des gens qui ont je veux pas citer des choses parce que dès que je cite certains, j'oublie d'autres, mais qui ont eu un autre mode de vie, qui ont notre monde aujourd'hui, il a des pratiques qui conviennent pas à l'Église. Mais l'évangile de Jésus-Christ est pour tous. Et si ces personnes, peu importe ce que contient leur passé, ce qu'ils ont pu faire subir, ce qu'ils ont subi de la part des autres, ou à cause de leur enseignement, de leur ignorance, des problèmes qu'ils avaient, peu importe. Eh bien, on dit, l'évangile de Jésus-Christ te reçoit. Tu es bienvenu. Et si tu es prêt à quitter ce qui t'a maintenu esclave, ce qui t'a enchaîné dans le passé, si tu es prêt à te laisser libérer par Jésus-Christ, viens, tu es bienvenu. Nous serons patients avec toi jusqu'à ce que l'évangile te transforme. Vous savez, nous avons déjà eu dans notre église, nous avons des gens qui ont fait de la prison, nous avons des gens qui étaient dans la drogue, nous avons des gens qui ont été dans la sorcellerie, on a ça maintenant. Et il ne faut pas que ça change. Vous avez quelqu'un qui rentre dimanche matin, qui a des tatouages depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est pas l'évangile. Et il faut se préparer avant, parce que des fois on est pris de surprise et bon, la première réaction, non, il faut être préparé, dire non, j'irai vers lui, je serrerai la main. L'apôtre Paul a dit, j'ai quitté la synagogue parce qu'on ne recevait pas une certaine portion de l'humanité. Il y en a assez dans le monde, il ne faut pas que ça existe ici. Parce que ça n'existe pas dans le cœur de Jésus-Christ. Et si nous voulons être fidèles au message de la parole, il faudra le pratiquer et l'enseigner. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul quitte la synagogue. La synagogue, c'est quelque chose de bien. Hein, c'est un lieu religieux, tout le monde les respecte et tout ça. Pour aller dans l'école d'un monsieur Tyrannus. Vous savez ce que Tyrannus veut dire? Un mot français qui vient de ce mot-là, qui veut dire tyran. C'est pas un monsieur gentil. Certainement que c'était un surnom. Mais l'apôtre Paul dit, moi, je ne cherche pas à savoir à qui ça appartient. Ce que je veux, c'est un endroit où on peut prêcher la parole, on peut la pratiquer. Même si c'est chez monsieur le tyran. Et le résultat, c'est que, eh bien, vous savez, à partir de cette œuvre-là, c'est pas seulement l'église d'Éphèse qui sera implantée, mais toutes les sept églises qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Donc, l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Elles sont toutes dans la région, là. Eh bien, elles ont toutes été implantées à partir de, point de départ, une école d'un monsieur le tyran. Mais le message a pu être prêché sans être entravé. Tout le message. Oui, l'opposition est venue de l'intérieur. L'apôtre Paul dit, cette opposition-là, bien, on va continuer à œuvrer. C'est dur hein, quand ça vient des siens. On peut supporter les difficultés qui viennent de l'ennemi. Mais quand ça vient des proches, ça fait plus mal. Mais l'apôtre Paul dit, moi, j'ai pris l'engagement d'aller jusqu'au bout et de prêcher tout l'évangile. Et apprenons à pratiquer tout l'évangile. Jésus a dit à ses disciples, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Je vais pas développer plus loin là, ce thème-là, parce qu'on reviendra dessus quand on arrivera dans l'épître aux Éphésiens, mais voilà une position que l'apôtre Paul a prise. Opposition, et il a pris une position. L'opposition interne. La deuxième source d'opposition venait du dénigrement de la puissance de Dieu qui se manifestait à travers de son ministère. C'est-à-dire, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Des personnes qui étaient guéries, des esprits malins qui étaient chassés. Ce qui va arriver, c'est que à partir du verset 13, eh bien, il y a quelques exorcistes, des spécialistes d'exorcisme, qui vont arriver. C'est une famille de prêtres même, de chefs, et qui vont venir. Et puis eux vont dire, ils vont essayer de faire passer le message. Vous savez ce que fait ce Paul? Nous, on connaît ces trucs. Nous, on fait la même chose. On va vous montrer que n'importe qui peut faire ce qu'il fait. Et ils vont dire, et eux, ils ont l'habitude entre eux, ces gens qui pratiquent la magie blanche et la magie noire, et je ne vous encourage pas à toucher à ces choses-là, mais eux, ils apprennent les uns des autres. Parfois, ils payent même pour des secrets, pour pouvoir avoir des pouvoirs. Et donc, ils avaient l'habitude de découvrir des nouvelles formules qui pourraient être utilisées pour accomplir leur tâche. Et donc, ils ont pensé que l'apôtre Paul, quand il dit au nom de Jésus, eh bien, ça doit être une formule, hein, une formule comme Abracadabran ou Eftahi Semsem ou quelque chose comme ça. Hein. C'est des formules qui réussissent. Et alors, eux, ils ont pensé, ils ont essayé de faire croire, mais oui, mais au nom de Jésus, c'est pareil. On va s'en servir, on va vous montrer comment c'est. Le dénigrement de la puissance de Dieu. Hein, on veut dire, ouais, on connaît le truc, suffit de connaître le truc, on peut faire la même chose. Alors, ces sept fils, eh bien, un jour, ils trouvent une personne qui est vraiment possédée, et dit voilà. Et alors, quand on lit le passage, eh bien, on voit au verset 13, donc je commence à lire au verset 13. Il dit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche !» Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et heureusement pour eux, ils sont sortis vivants. Dieu, quand même, il fait grâce. Hein. Il les a protégés, il a sauvé leur vie quand même. Ils ont choisi un bon élément, ils ont dit voilà, avec ça on va prouver. Eh ben, oui, ils sont mal tombés. Vous savez, ils ont voulu faire du mal au nom de Christ, mais le résultat, c'est que Dieu l'a transformé en un sujet de gloire. Parce que finalement, ça a démontré que c'est autre chose, c'est une autre puissance. Ces gens-là, peut-être, ils avaient une puissance, mais celle dont Paul parlait, c'était autre chose. Et finalement, ils ont rendu service en voulant détruire, dénigrer l'œuvre du Seigneur à Éphèse. Eh bien, finalement, ils n'ont fait que renforcer. Parce que regardez ce qui se passe après. Je lis la suite. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Hein, on veut détruire Dieu, eh bien, il y a de fortes chances que Dieu peut se servir des mauvaises intentions des hommes pour glorifier son nom. Et donc, finalement, en voulant dénigrer l'œuvre, la puissance que représentait Paul avec le nom de Jésus, bien finalement, ils l'ont démontré. Ça rappelle un peu ce que Jésus disait, parce que une fois, dans son ministère, les Juifs, les pharisiens, étaient venus et disaient de Jésus, « Oui, il chasse les démons, mais c'est au nom de Belzébub. Belzébul, le fils, le prince des démons. » Oui, ils ont voulu le faire aussi, mais vous savez comment Jésus a répondu en Matthieu chapitre 12. Il a été un peu plus tendre avec ces hommes-là. Matthieu chapitre 12, et je lis les versets 27 et 29. Jésus dit, vous faites cette accusation, d'abord... Vous êtes en train d'essayer de dire que Satan peut être, le royaume de Satan est divisé contre lui-même. C'est-à-dire, lui, il va mettre un démon et puis après, ses autres serviteurs, d'autres démons vont venir chasser les premiers et il casse son travail. Il dit, mais c'est comme ça que le diable est trop malin il est trop intelligent pour détruire son propre travail. Il est là pour détruire l'œuvre de Dieu, mais pas pour détruire son propre travail. Et alors, Jésus dit au verset 28, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? L'image qu'il prend, c'est, il est en train de dire, cette personne qui est possédée, eh bien c'est une demeure, hein, une maison, qui est gardée par quelqu'un qui est fort, donc un démon. Il dit, maintenant, si tu veux rentrer et prendre possession de cette maison, il faut d'abord lier l'homme fort qui protège la maison, le démon. Et si il est lié, et si tu prends possession, ça montre que tu es plus fort que celui qui défendait la maison. Donc Jésus est en train de dire, si Satan met ses démons dans une personne, moi je viens derrière et j'arrive à le chasser, qu'est-ce que faut conclure? C'est que je suis plus puissant que le démon qui était dans cette personne. Il dit alors seulement, une fois qu'il aura lié l'homme fort, pillera-t-il sa maison? Alors, en fait, c'est ce qui a été démontré là à Éphèse. C'est que Dieu s'est servi de cette idée des fils de Séva pour dire, eh bien maintenant, sachez que la puissance qui est en train d'agir est plus forte que cette puissance que vous connaissez et plus forte que la puissance que représentent ces fils de Séva, qui vous a certainement étonné par le passé, mais le nom de Jésus est encore plus puissant que cela. Et vous savez, des personnes qui ont été entraînés ou dans l'ignorance se sont retrouvés sous la puissance des forces maléfiques et démoniaques, et certainement qu'on va pouvoir en parler plus à l'avenir, mais quand Jésus entre dans cette vie et quand Jésus les délivre et quand Jésus les protège, il démontre qu'il est plus fort. Et des personnes dans l'Église aujourd'hui qui encore subissent les attaques de l'ennemi, mais ils prennent la parole de Dieu et lisent cette parole, ils font appel à Jésus-Christ et le calme revient. C'est parce que la puissance du nom de Jésus est plus puissante que n'importe quel démon. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas seulement que les gens ils disent « Oh, wow, Dieu il est fort, gloire à Dieu !» Il y a beaucoup de monde qui font ça. Hein. Il y a des églises, c'est plein de monde qui font ça. Mais vous savez ce qui va plus loin? Et lisons la suite de ce passage. Il nous dit, bien sûr, la crainte s'empara de beaucoup, de tous, et le nom du Seigneur était glorifié, d'accord, mais regardez le verset suivant. Donc le verset 18, il dit, plusieurs de ceux qui avaient cru, c'est pas qu'ils ont cru à ce moment-là, ils avaient déjà cru. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ah, ils avaient cru, mais il y avait quelque chose caché dans leur cœur. Il y avait encore ils avaient des attaches avec le monde maléfique. Ils avaient des attaches encore avec les puissances du passé. Et quand ils ont vu ça, ils sont venus et ils ont confessé. Oui, ils avaient cru. Mais maintenant, ils disent, oui, mais il y avait quand même un petit domaine secret. Ils avaient un placard qui contenait un cadavre. Et voyant cela, ils sont venus, ils l'ont confessé. Et au verset 19, il dit, « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estime à la valeur de 50 000 pièces d'argent. » C'est du vrai argent, hein, c'est pas comme ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la tôle. Mais 50 000, je sais pas, 50 000, ça fait beaucoup. Je ne sais pas ce que vaut une pièce d'argent, mais 50 000, ça fait beaucoup, n'importe comment. Et il dit, mais le résultat, l'ennemi a voulu dénigrer la puissance de Dieu. Mais Dieu a retourné la chose, mais pas pour faire un spectacle et dire « Ah !» Et puis, et la réaction qu'on a tous eue, c'est de rigoler en voyant courir, on pouvait imaginer ces deux hommes en train de courir tout nus, avec des bosses de partout. Mais c'était pas ça que Dieu voulait voir. Et ne nous arrêtons pas au spectacle en tant que chrétien. Mais Dieu a laissé cette chose arriver, c'est pour aller plus loin avec certaines personnes qui avaient cru, mais qui avaient encore des choses dans leur cœur. Et vous savez, on peut avoir ça dans une église aussi. Des personnes qui ont cru, oui, on leur dit, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés? Ils disent, oui, je crois. Est-ce que tu as demandé à Jésus de te pardonner tes péchés? Oui, j'ai demandé. Est-ce que tu crois que tes péchés sont pardonnés? Oui, je crois qu'ils sont pardonnés. Est-ce que tu crois qu'un jour tu seras au ciel? Oui, je le crois. Mais Jésus dit, mais est-ce que tu as encore des choses dans ta vie? Des choses du passé qui sont encore là, qui sont cachées. Peut-être personne ne connaît. Il dit, écoute, c'est pas la peine d'attendre quand quelque chose arrive qui te fasse bien peur. Il dit, écoute, règle-le. Confesse-le. Ces hommes ont été prendre ceux pour lesquels ils avaient payé très cher, ils le prennent et le brûlent. Ils n'ont pas vendu parce que ça tombe dans les mains de quelqu'un d'autre. Il dit, non, on va pas propager la chose, on le brûle. Tant pis, ce que ça a coûté à l'époque, on le brûle. C'est terminé. Le message de ce matin, c'est si, bien sûr, peut-être vous avez cru, et on peut avoir dans l'Église des gens qui croient, mais il y a encore des choses du passé qui restent encore, des désirs, des passions, peut-être c'est secret, peut-être il n'y a que votre femme qui le sait, peut-être même elle ne le sait pas. Le Seigneur dit, écoute, pour que l'Église puisse avoir toute sa force, il faut que ces gens-là le traitent. Nous ne sommes pas l'Esprit de Dieu. Les anciens peuvent prier, ils peuvent jeûner 3 mois s'ils veulent. Ils ne pourront jamais le savoir. Il n'y a que vous qui le savez. Mais là, c'était la volonté de Dieu, que ça pénètre jusque dans les cœurs de ces personnes pour purifier l'Église. Purifier encore ces placards fermés, ces petites pratiques qu'on a encore dans le secret de notre vie, qu'on fait en semaine, qu'on fait en week-end, qu'on a avec certains amis. Ici, ces hommes, et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous en parle, ils ont dit, nous, coûte que coûte, peu importe ce que ça nous coûte, on va le faire, on tranche à 100% avec Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Oui, l'opposition, mais l'opposition mène à la victoire. Le premier point, l'opposition est venue de l'intérieur. Un message qu'on leur voulait uniquement pour les Juifs, finalement, il est ouvert à tous. L'opposition a ouvert la porte. Deuxième opposition, c'est la puissance de ceux qui voulaient dénigrer l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu transforme cela pour purifier l'Église de quelque chose que personne ne connaissait, qui est encore secret. Il fallait que ces hommes le confessent pour que ça se sache. Troisièmement, peut-être je peux dire sur cela que l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, et on reviendra dessus, mais dans Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 21, il va justement parler de la puissance de Dieu. Il va leur rappeler. Il dit, vous rappelez, la puissance de Dieu, ne l'oubliez pas. La puissance de Dieu s'est surtout manifestée lorsqu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Et puis pour ce qui est de cette purification, eh bien dans Éphésiens chapitre 4, il va parler du fait de se dépouiller de l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. C'est pas seulement j'ai cru, Mais maintenant que tu as cru, tu dois te dépouiller, enlever, retirer, arracher, découper, peu importe ce que ça. Enlever l'homme ancien et revêtir l'homme nouveau qui est en Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Nous allons revenir dessus, mais voilà, l'œuvre complète, c'est ce que Dieu veut. Vous voyez, c'est ce que Dieu cherche dans une église, c'est pas que, comme quelqu'un m'a dit une fois, il m'a dit, il faut que ça pète le feu. Ah, c'est pas ça que Dieu veut. Lui, il veut, c'est une œuvre dans les individus. C'est pas qu'il arrive des choses extraordinaires, mais il veut que ce soit des vies transformées. Et après, on arrive à cette troisième lutte. C'est avec les orfèvres d'Éphèse. À partir du verset 23. Si on lit à partir du verset 20, il nous dit « Ainsi, la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Ah, ça c'est les paroles qui parlent de succès. Il dit la parole croissait en puissance et en force. Et alors, donc ce qui a permis à l'apôtre Paul, verset 21, il a dit, bon, après ces choses qui furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. Il dit, bon, les choses vont bien, c'est bien parti, moi je vais aller faire un tour à Jérusalem. Et même, il nous dit au verset 22 qu'il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste. Donc, il a dit, bon, maintenant, l'équipe, on peut commencer à alléger l'équipe, les choses sont bien parties. Et c'est juste au moment où les choses semblent aller très bien et qu'on commence à alléger l'équipe que arrive encore une tempête. Celle qui est mentionnée des versets 23 jusqu'à vers la fin du chapitre. Rapidement, eh bien, tellement de gens s'étaient tournés vers l'Évangile et tellement de gens avaient entendu l'Évangile, peut-être sans se tourner vers l'Évangile, mais ils avaient déjà abandonné cette croyance dans l'idole de Diane ou d'Artémis. Ils avaient abandonné cette croyance-là, et puis ça commençait à représenter rien du tout. Ils disent, bah, finalement, ça, tout ça, c'est rien du tout. Hein, ce Jésus-là, c'est autre chose, ça, c'est plus puissant. Alors les gens commençaient à ne plus acheter les petits souvenirs du temple, des miniatures du temple d'Artémis. Et donc, c'est le commerce qui baissait. Et quand vous commencez à toucher au commerce de quelqu'un et toucher à sa poche et son argent, et ça commence à faire mal. Et alors, le syndicat des orfèvres d'Éphèse, eh bien, il a rassemblé, bon, c'était pas le CGT à l'époque, mais il rassemble les ouvriers, il leur dit, vous savez, si on continue à laisser faire, ce Paul-là, il va détruire notre commerce. Il dit, faut qu'on réagisse. Faut qu'on fasse une manifestation. Alors, ils font une émeute, et puis en avant, c'est du bruit, et ils rassemblent du monde, et puis vous lisez le passage. Il y a même, la plupart des gens, ils savaient même pas pourquoi ils étaient là, ils sont en train de crier, oui, la Diane d'Éphèse! Ils savent même pas pourquoi on est là. On a remonté, on a fait Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'un mouvement arrive au point où ils sont obligés de faire des émeutes, et commencer à crier, pour défendre leur cause, c'est qu'ils ont déjà perdu. Et là, ces hommes crient, c'est parce que c'est le début de la fin pour eux. L'œuvre de Dieu se fait et ça continue. Et finalement, le secrétaire de la ville prend la parole. Il a dit, écoutez, pourquoi vous criez comme ça? Tout le monde sait la Diane d'Éphèse. Tout le monde le connaît. Qu'est-ce que vous êtes en crier? Tout le monde est au courant. Partout. Il n'y a personne qui pourra détruire cette connaissance des faits. Pourquoi vous criez? Il dit, et puis il avait compris la raison pour laquelle il a dit, et si Démétrius, il a un problème, eh bien qu'il vienne voir, hein, qu'il vienne, et puis on va discuter ça en assemblée, calmement. Parce que lui, il savait que c'était une question d'argent, c'était pas vraiment une question d'injustice ou d'abus de la part de... À tel point, c'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a même des officiers de la ville qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont envoyé un mot et dire « Paul, cache-toi, sors pas, bouge pas, reste tranquille. » Parce que lui, Paul, c'était le genre, il allait sortir, il allait leur répondre. Il dit « Non, Paul, parfois il faut écouter aux inconvertis. Parfois ils sont sages. Et que Dieu nous donne la sagesse de savoir quand il faut les écouter. » Mais ces hommes, ils savaient qui était Paul. Ils disent, Paul, on te connaît, on sait ce que tu penses, reste. Cela, on va les laisser, on va les écrire pendant un temps, et puis après, on va les calmer, et puis ça ira. Et vous savez, l'apôtre Paul va parler dans Éphésiens chapitre 5, et versets 15 à 21, et nous allons lire ça ensemble. Et là, nous avons une exhortation pour notre vie quotidienne en tant qu'Église. Éphésiens 5, 15 à 21. Il dit, prenez donc garde afin que vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire droiture. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous occupez pas de ce qui se passe dans le monde, faites la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand est-ce qu'on va le faire? Si c'est ce qu'on doit faire, si on va l'Église va le faire, c'est lorsque des rassemblements d'Église. Un chrétien tout seul ne peut pas répondre à cette exhortation. Il faut qu'on soit ensemble. Il nous dit... Ne vous occupez pas de ce qui se passe et ce qui ne se passe pas dans le monde. Faites la volonté de Dieu et dites et louez le Seigneur. Voyez le Seigneur en toutes choses. Rachetez le temps. Ne vous laissez pas influencer par... parce que si on regarde trop, hein, surtout ne remplacez pas la lecture de la Bible par le journal du 20h. Ça n'a pas le même effet, hein, je vous assure. Vous vous rappelez quand on a fait l'étude sur David et Goliath, l'armée de Saül, ils écoutaient les paroles de Goliath et ils tremblaient. Au bout de 40 jours, ils tremblaient encore. Tandis que David, qui avait écouté le Seigneur dans les montagnes, lui, quand il arrive, lui tout seul, il peut combattre Goliath. Si on écoute les voix de ce qui se passe, il y a de quoi faire paniquer, on est neutralisé. Mais si on prend le temps d'écouter la parole de Dieu, peu importe la taille de l'ombre de l'ennemi, nous pouvons avancer d'un pas ferme. Sachons lire les événements dans le monde et être rassurés que tout va bien, car Dieu est au-dessus de tout. Jésus dira... En Marc 13, 29, il dit « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Il dit « Finalement, ces choses qui font peur aux autres, moi, ça me rassure. » Quand il dit « Il y aura des tremblements de terre, quand il fera le froid de janvier au mois d'octobre, bon, vous n'allez pas paniquer. Ah, ça veut dire que le Seigneur arrive. » On est rassuré. L'opposition. Oui, l'opposition... dans l'implantation de l'œuvre, et vous savez, l'opposition, quand Dieu est dans l'œuvre, eh bien, la transforme pour rendre fort. Alors je vous ai dit tout au début, certains seraient tentés de prendre les deux versets qui parlent de signes et miracles et puis de parler en langue et de dons spirituels et tout ça pour en faire un modèle pour notre vie de tous les jours. Mais vous savez ce que dit l'apôtre Paul lorsqu'il regarde en arrière, il pense à cette époque où il faisait l'implantation d'église. Dans son épître aux Éphésiens, il ne dit pas « Vous vous souvenez, quand on avait les miracles et quand il y avait la puissance et quand il y avait les choses, vous vous rappelez cette époque-là ? Oh, c'était super ! C'est là où Dieu a planté l'œuvre et tout. » Il ne fait aucune référence à cela. En fait, regardez même, tout à l'heure, on regardait dans Actes chapitre 20. Acte chapitre 20, là quand il voit, c'est seulement peu de temps après, hein, il revoit les anciens, il est de passage, et regardez les versets, je peux pas lire tous les versets, c'est du 17, verset 17 à 20 à 35, mais je vous fais remarquer deux, trois choses. Regardez, je relis le verset qu'on a lu tout à l'heure, les deux versets, 18 et 19. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Et regardez ce que dit le verset 19. Il dit, voilà les traits dominants de l'œuvre pendant l'implantation d'Église. Il dit, servant le Seigneur en toute humilité et avec larmes au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Il dit, c'est ça. C'était avec humilité et avec larmes. C'est là où était la puissance. Pour Paul, les guérisons et les miracles, ce n'était pas ça qui faisait l'œuvre. C'est son cœur humble. C'est les larmes. Il en parle aussi de ses larmes plus loin. Regardez verset 31. C'est l'exhortation qu'il donne aux anciens. Il dit, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Il dit, c'est là. C'est comme ça qu'on a fait l'œuvre. L'enseignement de la parole, l'exhortation de la parole, dans l'humilité et avec larmes. Malgré l'opposition, Paul c'était un homme, mais il n'était pas fait en fer. C'était un homme très sensible. Hein, c'était un homme qui pouvait dire... Il pouvait dire, comme une nourrice qui prend soin d'un enfant, c'est comme ça que j'ai pris soin de vous. C'est un homme qui sait être tendre. C'est pas un dur. C'est un homme qui pleurait. On parle rarement de ses larmes. Mais c'est un homme qui pleurait, mais pour des bonnes raisons. Et sa puissance était dans ses prières et ses exhortations avec larmes. On reviendra plus tard là-dessus. Et puis... S'il devait demander à Paul, on dit, mais c'était quoi le succès, le secret du succès d'Éphèse? Eh bien, vous savez, on le trouve dans Apocalypse, chapitre 2. Versets 4 et 5. Je vais commencer à lire au verset 2. Maintenant, c'est 40 ans plus tard. Hein, donc ici, quand Jean, sur l'île de Patmos, reçoit la lettre du Seigneur pour l'église d'Éphèse, 40 ans plus tard, voilà ce qu'il dit au verset 2. Il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Tu as du discernement. « Tu as souffert, tu as eu de la persévérance. » Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'en es point lassé. Il dit, tout ça. Et je sais, je le vois, j'ai remarqué tout cela. Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te repentes. Paul dit, oui, Oh, on a développé des capacités extraordinaires, du discernement spirituel, on a eu de la force spirituelle, on a été persévérant, on arrive. Mais il a dit, oui, mais n'oubliez pas que c'était cet amour que vous aviez au début qui a fait, qui était le secret du succès. Il dit, mais vous avez perdu cet amour. Et si une église perd son amour, une église ne peut perdre son amour que lorsque ceux qui la composent perdent leur amour. Ne critiquez pas et dites, ouais, cette église, il n'y a plus l'amour comme avant. Eh bien, s'il n'y en a plus comme avant, c'est parce que les gens qui la composent ne l'ont plus comme avant. Il dit, tu as perdu ton premier amour. C'est quoi? C'est pas... C'est ça, pas ça, ça c'est n'importe qui. Dans le monde, on a ça. Vous avez n'importe quel mariage, vous allez trouver plein de ça. Premier amour, c'est que je reçois mon frère, il arrive, je reçois, il vient avec un bagage. Il arrive avec un passé. Il arrive avec... bon, il n'a même pas le langage. Il ne sait pas parler le patois de Canaan encore. Il ne sait pas comment se comporter. Il a encore des habitudes, il a encore des choses. Et on l'a reçu avec amour. Comme Dieu nous a reçus, on le reçoit. Parce que vous savez, c'est facile, on est des êtres humains. Une église est composée d'êtres humains. Et très facilement, on dit, mais moi je suis dedans, je suis content, je suis bien, on est bien là. Tout ça. Pourquoi se déranger pour recevoir quelqu'un d'autre? Eh oui, mais que toi, quand tu es venu, il y a quelqu'un qui s'est dérangé pour venir vers toi, pour te recevoir, pour t'accueillir, t'intégrer. Plusieurs ont travaillé. Que ça ne s'arrête pas. Continuez à recevoir. L'amour que vous avez trouvé en arrivant, donnez-le à ceux qui arrivent. Parce que sinon, Paul dit, oui, il y a beaucoup de bonnes choses. L'Esprit dit à Jean, il dit, oui, dans cette église, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais il y a une chose que je ne trouve plus, c'est le premier amour. Et si tu as, si tu n'as plus le premier amour, bientôt il n'y aura plus le témoignage. Et l'Église n'existera plus. On reviendra là-dessus. Ça, c'est, là, j'ai traité les deux, les points 2 et 3. On reviendra sur ces points-là. Mais pour comprendre tout le raisonnement. Oui, les obstacles, oui, les difficultés. L'Esprit de Dieu s'est servi des obstacles pour développer des choses. Mais maintenant, nous avons un acquis qu'il faut contenir, entretenir, préserver et qui doit rester caractéristique de l'Église. Il y a une responsabilité individuelle comme il y a une responsabilité de nous tous en tant qu'Église. Je crois que j'ai dit tout ce que j'ai à dire. Prions. Père Céleste, toi tu ne changes pas. Toi tu n'as pas perdu ton premier amour. Et il est encore là. Comme il a été dit tout à l'heure, tu es un Dieu fidèle. Ça veut dire comme tu étais hier, tu es encore aujourd'hui, tu l'es demain. Père, cet amour que tu as démontré sur la croix, quand... Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est le même amour que nous avons maintenant. Oui, la puissance. Oui, la fidélité. Oui, le témoignage. Oui, la victoire. Oui, le succès. Oui, les âmes qui viennent à Christ. Mais Seigneur, si nous n'entretenons pas notre relation avec toi, si notre vie ne reste pas pure, si nous ne sommes pas disposés à recevoir n'importe qui, peu importe d'où il vient de notre humanité déchue, si nous ne sommes pas prêts à nous couper toutes les attaches et nous vider de tout ce que le monde a semé dans notre cœur, si nous ne sommes pas prêts à nous tourner des événements et pour voir ton œuvre et ta volonté se faire au milieu de nous, Seigneur, si nous n'avons pas ce premier amour. Et là, aucun de nous ne doit regarder à côté, mais se regarder soi-même, dans le miroir de la parole de Dieu. Seigneur, il n'y a pas un d'entre nous qui peut prétendre avoir un amour parfait, intact. Et la prière qui nous est enseignée, c'est de demander à Dieu que notre amour augmente de plus en plus à la gloire de notre Dieu. Seigneur, c'est là le secret de l'implantation d'une œuvre qui te glorifie. Seigneur, je crois que j'ai tout demandé. Je vais laisser ton esprit continuer à agir. Glorifie ton nom parmi nous. Amen.